sommaire de le cadre. Et l'idée de base de ce cycle de conférences est qu'il y a un type d'accord entre une vision théologique et la technique mystique dans chaque système kabbalistique. Et j'ai donné un petit vision de la Kabbale qu'on voit à différents corps, c'est-à-dire le type d'émanation. Néoplatonicien, aristotélicien et des autres types de corps. Mais je suis intéressé maintenant d'aborder des corps linguistiques, c'est-à-dire une vision ontologique de la langue. Le Dieu a émané en fait de entités linguistiques et les corps linguistiques sont différents. Maintenant, je voulais aborder le nom divin comme le corps le plus important dans la mystique juive et dans les deux dernières conférences, je parlerai de la Torah comme corps linguistique et dans la dernière conférence, je parlerai de la vision de la prière comme corps linguistique. Et le nom divin, c'est clair, c'est un sujet de base dans l'histoire de la Kabbale. Vous parlez dans l'histoire du judaïsme en général. Et le nom divin a des pouvoirs magiques et mystiques. Mais ici, je suis intéressé dans une vision de la Kabbale en quelle le nom divin est la technique et dans le même temps le place, le locus, si vous voulez, le place ou l'espace où l'expérience mystique est placée. Et je voulais insister que qu'est-ce qui se passe dans l'école kabbalistique le plus important qui s'occupe sur le nom divin, la Kabbale extatique de Avraham Abulafia, il y a une vision triple de le nom divin. La première est le nom divin comme technique. Le deuxième, c'est le nom divin comme la place où le Dieu peut être attiré par la récitation de la lettre de le nom divin. Et le troisième, c'est une vision de le nom divin comme est identique avec le Dieu. C'est-à-dire, ce sont les trois phases que je voulais exposer maintenant. C'est-à-dire, le nom divin comme technique, comme la place ou l'expérience mystique et le Dieu comme nom, une vision nominale de le nom divin. Et nous avons déjà dans quelques textes mystiques à la début du XIIIe siècle dans la littérature mystique Renan qui a été écrite dans le sud de d'Allemand, nous avons quelques visions intéressantes de nom divin comme une extension de Dieu sur les personnes vivantes, c'est-à-dire que nous avons une corde en laquelle le tétragrammaton se trouve comme une aura sur les têtes des hommes. Selon ces visions, qui est une vision, je crois, très très importante pour l'histoire de la mystique juive tardive, et le nom divin existe comme une vitalité dans la personne et la mort est simplement la disparition de le nom divin. Et ce type de vision est très important non seulement pour l'histoire de la technique que je voulais aborder dans un moment, Mais en fait, nous avons ici le prêtre, une vision magique aussi, qui a culminé avec la vision de le golem. C'est-à-dire, le golem n'est une autre chose que la infusion de l'âme divine par une personne vivante dans un corps inerte. C'est-à-dire, nous avons une vision de l'âme divine magique qui se trouve déjà dans ce type de mystique renom du 13e siècle. Mais qu'est-ce que c'est plus important est le fait que la vision de la présence de l'âme divine comme une aura, comme la vitalité de l'âme divine, et se trouve dans quelques écrits mystiques où nous avons la première évidence, témoignage sur l'utilisation de l'âme divine pour achever une expérience mystique qui s'appelle prophétie. Et dans le livre de Rabbi Elazar de Worms, qui est Maïsa en hébreu, et il y a des discussions de cette vision de l'homme divin comme une extension sur l'homme, mais aussi l'utilisation de l'homme divin comme une part d'une technique mystique. Et il y a quelques discussions où la prophétie peut être achevée dans le Moyen-Âge, quelque chose qui est rare dans la pensée juive, par une activation de le nom divin. C'est-à-dire, nous avons, avant l'apparition de l'école kabbalistique qui s'appelle Kabbal extatique, nous avons déjà une tradition qui peut être plus ancienne, où le nom divin est la présence divine, mais dans le même temps, la technique de base. Les traditions ashkénazes, et on était accepté par un kabbaliste qui a fleuri dans le dernier tiers du 13e siècle, Abraham Aboulafia, qui a lu le livre de la mystique juif Renan, et il a adapté quelques parts de ce type de mystique linguistique, et il a élaboré la technique de prononciation du nom divin pour achever l'expérience prophétique, et il se considère comme être un prophète lui-même, et sa kabbale est en fait une kabbale qui s'appelle prophétique, kabbale prophétique. Qu'est-ce que c'est intéressant dans la technique de Abraham Aboulafia est une combinaison entre la récitation de combinaisons de lettres de le nom divin avec différentes autres lettres de l'alphabet hébreu. Et ce type de récitation a été combiné avec des autres éléments, peut-être d'origine soufie ou d'origine hindoue, peut-être que nous avons même une influence de yoga, mais c'est un aspect qui ne m'intéresse pas ici. Qu'est-ce que c'est intéressant de la vision d'Abulapia? Je crois que ici nous avons un développement originel, et le fait qu'avec Aboulafia, il y a une vision d'une corde nominale qui a été identifiée par Aboulafia avec le système d'émanation de l'intelligence séparée. C'est-à-dire, avec Aboulafia, nous avons une démarche, qui est une démarche, je crois, originel, où la vision ontologique aristotélicienne, c'est-à-dire l'émanation de différents types d'intellect séparés, et on était dans le même temps une émanation linguistique. Avec Aboulafia, nous avons pour la première fois une vision d'une parole primordiale, quelque chose qui est proche, je crois, à quelques visions hindoues. Mais avec Aboulafia, qu'est-ce que c'est intéressant que le dernier intelligence séparée, l'agent, l'intellect agent, intellectus agents, a devenu pour lui une source de les paroles prophétiques. Ici, nous pouvons voir comment la mystique juive a été influencée d'une façon très forte par la Kabbale, par la métaphysique grecque, a été interprétée et adoptée à une vision plus linguistique. C'est-à-dire, nous avons une vision de base dans la pensée d'Abulafia que l'intellect agent est une entité linguistique. C'est parce que la vision de la prophétie d'Abulafia, c'est-à-dire le résultat de ce type de récitation linguistique, est aussi un type de révélation linguistique, on fait un dialogue. C'est-à-dire, nous pouvons parler d'une technique linguistique et après une révélation linguistique. Et je voulais vous donner le premier exemple qui se trouve dans le manuel mystique le plus important de la Boulatia, peut-être le manuel mystique le plus important de la mystique juive. Dans la première citation, nous avons la recommandation d'Abulafia, dirige ta face vers le nom qui est mentionné. Ici, vous pouvez voir ce type d'ambiguïté. C'est-à-dire, la technique est une technique nominelle, mais aussi la révélation a quelque chose comme un nom. Dirige ta face vers le nom qui est mentionné ou récité, et assis-toi comme si un homme se tenait devant toi et attendait que tu lui parles, et il est prêt à te répondre quoi que tu lui demandes. Et tu dis, parle, et il répond. C'est-à-dire que nous avons ici une vision d'un dialogue entre le mystique et le double, entre l'homme qui est mentionné ici est le double. Et le résultat de ce type de nom qui a été mentionné ou récité est un dialogue qui, en fait, est un monologue. C'est-à-dire que le double ne parle pas. Toujours, le mystique qui utilise la technique est aussi la personne qui répond. Nous avons un type de dialogue qui est en fait un monologue, et pour le point que je veux le faire du point de vue méthodologique, je crois que c'est une chose de base. C'est-à-dire que la technique a devenu l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la récitation devient enfin la réponse. Et selon ce cas, et j'ai des autres cas aussi, et nous pouvons voir d'une façon très simple comment il n'y a pas, en fait, presque aucune différence entre l'expérience et la technique. Alors, commence à prononcer et récite en première le texte de tête, c'est-à-dire prononcer la première lettre de le nom divin. Faisons sortir le souffle, ici nous avons l'élément hindou ou yogi, avec grand S, puis reviens comme si celui se tient face à toi, te responde, et toi-même répond. Ici nous avons une façon très explicite que le dialogue est un peu un monologue, que l'activation de l'apparatus vocal est je crois, la raison de la réponse. La réponse se trouve dans la même place. En général, nous pouvons parler ici d'une transformation d'une vision qui se trouve déjà dans quelques midrashim tardifs où il a été écrit que la présence divine, la Shekhinah, apparaît de la bouche de Moshe. C'est une chose que je ne peux pas élaborer maintenant, mais avec Aboulaf, il y a ce type de pensée à devenir plus élaboré. C'est-à-dire, dans le Midrash Tardif, nous avons un moment décisif, unique, spécifique, que la présence divine a utilisé la bouche de Moshe. Ici, c'est quelque chose de plus général. Ici, nous avons une théorie générale de la mystique extatique. Que, en général, ce n'est pas Moïse seulement, mais nous avons ce type de dialogue avec le double, une double imaginaire, et pendant ce type de dialogue, la bouche est la seule source qui opère dans ces processus, c'est dans le même temps la technique et l'expérience. Et toi-même réponds, change ta voix. C'est exactement clair que ce type de dialogue est, on fait un monologue avec deux types de nuances, de sorte que la réponse ne soit pas identique à la question. C'est-à-dire, il y a un monologue avec deux voix qui viennent de la même place et ne prolonge en aucune manière ta réponse, mais dis-la facilement et calmement, et dans la réponse récite une lettre du nom comme il est actuellement. C'est-à-dire, nous pouvons voir ici la technique ne comporte pas un type de rupture. Nous avons la technique et après une expérience qui est différente, un mode drastique de la technique. Nous avons ce type de continu entre la technique et l'expérience. Nous avons l'expérience comme un dialogue linguistique oral. Ce n'est pas quelque chose de mental, ce n'est seulement mental, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose qui est exprimé d'une façon très claire que nous avons ce continuum entre la technique et la réponse. Et ce type d'expérience est pour Aboulaf la culmination de la mystique en général. Selon le second citation, nous avons cette vision de la Kabbale de la Boulafia, ce n'est pas seulement un moment d'une tradition plus diversifiée, mais c'est le moment de base. Et selon le même livre, Aboulafia insiste que cette tradition, la Kabbale, est celle des noms divins, elle seule, c'est très important, conduit véritablement l'homme à l'ultime perfection, qui est la compréhension du Seigneur, de nombreuses fois, avec un peu d'effort. C'est un autre moment de base, je crois. Nous ne parlons pas d'une technique, c'est quelque chose de simple, facile, immédiat. Ce n'est pas une discipline, nous ne parlons pas de quelque chose qui peut être achevé après des années, des décennies, des exercices, nous parlons d'une chose qui est, Aboulaf insiste dans tous ses livres, que c'est quelque chose de facile. Et ici, peu de temps après, si sa constitution est bonne, ainsi que sa préparation, et s'il est accoutumé comme il a été indiqué précédemment, c'est-à-dire il y a une technique, c'est-à-dire la préparation. Mais ce type de technique est quelque chose de très court, c'est quelque chose que je voulais appeler un trigger qui est court, c'est-à-dire nous ne parlons pas d'une technique qui est très 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 longue. Et la préparation est courte et aussi l'expérience vient immédiatement après la préparation. Je vais annoncer maintenant ce qui doit être fait pour atteindre Dieu par le mot. Et ici, nous avons le jeu de mots, très très important. En hébreu, on fait la parole Hashem peut être interprétée de deux façons. Le premier est Dieu. L'autre interprétation est le nombre. C'est-à-dire, ici nous avons un jeu de mots qu'il est impossible de le traduire. Il est une part d'une vision dans laquelle le nom divin est aussi la dénomination de Dieu. C'est-à-dire, pour Abou Nafia, il était très très facile d'avoir ce type d'affinité entre la technique et l'expérience de la divinité. Dans le nom, vous avez l'appellation de Dieu, et Dieu lui-même, on le voit dans un moment, d'une façon plus claire, plus forte. C'est-à-dire, selon la vision de Abou Nafia, le double sens de Hashem, comme nom divin et comme Dieu, a opéré d'une façon extraordinaire pour la thèse. C'est-à-dire que dans le nom, nous avons le Dieu. Pour atteindre Dieu par le nom divin. Sache, mon fils, puisse Dieu te venir en aide, que le nom est son essence, et son essence est son nom. Et le nom qui lui est propre est composé de quatre lettres. À un moment, je parlerai de ce type de quatre lettres. Qu'est-ce que c'est important pour moi ici? C'est la métaphysique linguistique. Dieu est identique avec le nom. C'est une façon très forte qu'Abou Nafia a utilisé ici de dire que l'essence divine, en hébreu, atmo, et l'autre type est Atmuto, c'est deux synonymes. Atmo est l'essence divine et son nom. C'est-à-dire que nous pouvons parler de ce type de corps qui commence avec le Dieu comme nom, continue avec toutes les intelligences séparées comme entité linguistique et se trouve dans notre possession la récitation du nom divin. C'est-à-dire que nous avons en fait une continue nominelle parfaite. Et c'est parce que je crois que nous avons dans le cas d'Abou Nafia un exemple très intéressant d'une corde qui commence avec le Dieu et se trouve dans le dernier part dans la technique qui est aussi nominée. Le fin de ce type de citation, c'est quelque chose de plus complexe, parce qu'Abou Nafia a une vision de nom divin qui est complexe. Pour lui, il y a un nom divin caché qu'il a utilisé, mais c'est n'importe quoi pour notre discussion ici. C'est-à-dire que dans la seconde citation, nous pouvons voir ce type de relation nominale entre Dieu comme nom et l'expérience qui dépend des noms divins comme une technique. Et dans le troisième exemple, du même livre de la Bible, nous pouvons trouver, je ne veux pas analyser tout le détail de la troisième citation, et nous pouvons voir le rôle de l'imagination seulement pour une vision de nom divin qu'il se trouve en face, si vous voulez, de les yeux de mystique. C'est-à-dire, pour Abou Nafia, ce type d'expérience, ce type de dialogue, comporte aussi une vision imaginaire de le double qu'on dit. Mais qu'est-ce que c'est important pour moi dans la troisième citation et une expression qui est très très importante pour les écrits d'Abou Lafia, les lettres intellectuelles. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une révélation? Une révélation est un contenu de lettres intellectuelles. Ici, c'est un moment de base dans la question d'Abou Lafia qui ne se trouve pas dans la pensée aristotélicienne où le message prophétique est simplement une table, il n'y a pas de lettre. Les lettres sont toujours quelque chose d'imaginaire. Avec Abou Lafia, ce type d'expression, les lettres intellectuelles, sont en fait le contenu de l'expérience. Et les lettres intellectuelles, ce type de vision, comporte en fait une axiologie de base dans la pensée mystique juive. C'est-à-dire, selon la pensée philosophique aristotélicienne de Maïmonide, par exemple, l'intellect humain n'a pas de langue, il est surlinguistique, peut-être supralinguistique. C'est-à-dire, la langue est quelque chose qui est inférieur, et une transformation d'un message qui est pur, purement intellectuel. Mais ce type de phrase, d'expression, lettre intellectuelle, donne une autre vision de le processus mental. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de processus mental qui ne sont pas linguistiques. C'est une vision qui a devenu plus importante plus tard, je ne peux pas discuter ici, mais a devenu très importante dans la mystique chassidique, où nous avons des élaborations très importantes d'une vision d'une langue qui précède l'intellect. Et il y a quelque chose à faire avec cette vision d'une contenu linguistique. C'est-à-dire, selon la mystique d'Abou Lafia, et nous parlons de la mystique la plus proche de la vision maïmonidienne, nous avons un changement où Dieu a devenu un nom. Tous les continuum intellectuel et nominel, le message est reçu par l'intelligence humaine et aussi linguistique, l'être intellectuel, et après toutes les choses deviennent linguistiques, c'est-à-dire le message doit être traduit par le prophète en paroles et mots normales. Qu'est-ce que c'est important ici, je crois, c'est la vision d'une linguistique intellectuelle, ou d'un intellect qui opère seulement par le lettre. Et je ne connais pas quelque chose comme ça avant la Kabbale extatique dans la pensée juive. Après, il est devenu très important. Et pour moi, c'est une pièce de force. Une pièce de base pour cette vision d'une continuum linguistique. Et ce type de vision linguistique est élaboré par Abou Lafia dans quelques interprétations qu'il a données à une expression hébreu très simple et très complexe en même temps. En hébreu, il est Hashem Bashem, c'est-à-dire le nom dont le parle avec le nom. Les trois différentes traductions sont bonnes, les trois sont utilisés par Abou Lafia, et les trois donnent la complexité de la thèse que je voulais démontrer ici, que dans l'expression, dans la première interprétation de l'expression Hashem, Nous pouvons traduire ce type de phrase hébraïque. Tu peux arriver à Dieu par le nom. Et c'est quelque chose que se trouve déjà dans des citations que j'ai déjà discutées. Qu'est-ce qui est plus important est l'autre interprétation qui se trouve dans quelques livres d'Abulafia où que Dieu se trouve dans le nom. Ce n'est pas seulement que le Dieu se trouve dans une autre réalité transcendantale. C'est-à-dire le don, l'essence divine comme nom. Mais dans les autres explications, le Dieu se trouve dans le nom. C'est la deuxième explication de trouver Dieu dans le nom, Hashem, c'est-à-dire le Dieu, se trouve maintenant dans le nom. Et ces visions comportent une technique d'attirer le Dieu par la récitation de nom divin dans la opération linguistique. C'est un type de magie qui était proche à la magie astrale. Et selon quelques discussions d'Apulafia, la récitation de nom divin peut attirer la présence divine dans la sonorité de la récitation. Je crois que ici nous avons la philosophie de la technique mystique linguistique d'Abulafia. Ce type de récitation linguistique est en fait un type d'incantation qui peut faire descendre des présences divines dans les mots, les lettres, le nom divin qui est récité. C'est-à-dire que nous avons un type de technique qui a des aspects cathartiques, c'est-à-dire la préparation, mais il y a des aspects plus magiques, c'est-à-dire que le Dieu se trouve dans le nom que nous voulons prononcer par ce type d'opération linguistique magique. C'est-à-dire, Abulafia n'était pas si intéressé dans ce type de magie. Pour lui, il a utilisé ce type de magie d'attirer le Dieu d'une façon plus mystique. Mais nous parlerons dans la troisième conférence sur ce type de magie d'attirer le Dieu dans la Torah, qui pour Abulafia est quelque chose de périphérique. Mais je voulais insister. Pour Abulafia, il peut parler d'une présence de le Dieu dans la langue prononcée par le mystique. Et je voulais maintenant discuter quelques types de réverbérations de la vision d'Abulafia d'un autre type de mystique juif, parce que je crois que nous ne parlons pas seulement ici d'une mystique marginale ou qui a resté dans des manuscrits, mais je crois que par la médiation de la Kabbale safédienne du XVIe siècle, qui a utilisé la Kabbale d'Abulafia d'une façon très très claire, et nous pouvons parler d'une histoire post-mortem de la Kabbale d'Abulafia jusqu'à Chassidisme. C'est-à-dire, dans la dernière citation que je voulais discuter ici, c'est tout dans la page 2, le dernier, nous avons une citation très importante attribuée à le fondateur de la mystique chassidique, le Becht, qui a été cité par mon compagnon, Rabbi Meir Harif Margolio. Et nous avons dans ce type de citation, nous avons une, je crois, un moment de passage entre la Kabbale extatique et safédienne dans la mystique chassidique. Qu'est-ce que c'est important ici que nous pouvons voir que la technique de base, c'est une technique de lettres. Dans le troisième et quatrième conférence, je parlerai des autres types de techniques qui sont techniques de texte, Torah, prière. Maintenant, je voulais insister que qu'est-ce que c'est intéressant dans la Kabbalah Bolafien, ce type de mystique atomiste, parlant de lettres séparées, de noms qui sont récités, combinés et recombinés, où la sémantique n'importe pas. Je voulais insister ici que même dans la mystique chassidique, nous avons ce type d'accent sur la performation linguistique non sémantique. Le fondateur du chassidisme a décrit la lecture, pour moi, une lecture technique mystique de le texte dans une façon, je crois, très proche à la vision de la Kabbale extatique. Quiconque se dispose à étudier par l'étude en lui-même, sans autre intention, c'est-à-dire une étude qui est dévotée seulement à l'étude, que sa bonne intention pour l'étude en lui-même soit de s'unir aux lettres dont la sainteté est la pureté. Et pour moi, qu'est-ce que c'est important ici? C'est l'accent sur les lettres. C'est-à-dire, ce n'est pas le texte sacro-saint, ce n'est pas la prière, mais nous parlons de les lettres séparées, et ce type d'adhésion, union avec les lettres, et je crois la vision qui se trouve dans la Kabbale d'Abou Lafia et aussi dans le texte que je voulais immédiatement discuter de le lettre d'Abou Lafia, Joseph Dikatila. Mais pour le moment, qu'est-ce que c'est important pour le fondateur de Chassidis? S'unir aux lettres, et nous parlons de lettres, il n'y a pas ici aussi une suite de sémantique. In potentia in actu, en parole et en pensée, nous avons encore une fois ce type de vision. Le lettre se trouve dans la pensée. Il n'y a pas une pensée sans lettre. Et ce type de mentalisme linguistique, si vous voulez, qui se trouve déjà en Apolafia. En parole, c'est-à-dire une vision verbale et aussi dans une vision mentale, mais dans les deux cas, nous parlons de lettre. De sorte qu'il voudra attacher la part de son âme inférieure et puis et âme élevée et après les autres types d'entités spirituelles qui s'appellent en hébreu Chaya et Hida à la sainteté de la chandelle de le commandement de la Torah, aux lettres lumineuses qui causent l'émanation de l'influence, de la lumière, de la vitalité qui sont vraies et éternelles. C'est-à-dire, nous pouvons voir ici ce type de dévotion à l'être séparé. Qu'est-ce que c'est intéressant dans la vision chassidique qui se trouve ici? C'est un type de fusion entre le continuum néoplatonicien, c'est ce qui se trouve ici, ce type de récollection qui peut unifier l'âme inférieure avec les prix, avec l'âme élevée, etc. Mais ce type de continuum platonique a été combiné avec la vision linguistique. Je donne un autre exemple pour ce type de combat, si vous voulez, entre la vision linguistique et les autres types de corps. On a voulu fier la tête, le corps aristotélicien avec l'intelligence, nous avons de l'être intellectuel. Ici, nous avons autre corps, un corps qui est neuroplatonique, cette vision de récollection. Mais dans les deux cas, je crois, qu'est-ce que c'est important, est d'établir quel est le principium individuationis, qu'est-ce que c'est la spécificité de la pensée mystique hébraïque, et de donner à une vision plus générale grecque, aristotélicien ou néoplatonicien, une technique très immédiate et courte et accessible. C'est-à-dire que nous pouvons trouver dans la philosophie juive mentaliste cette vision de l'union de l'intellect humain et intellect divin. Mais il n'y a pas une technique. Quelle est la technique spéciale? Ce n'est pas clair dans la pensée philosophique. Nous avons dans la philosophie néoplatonicienne, nous avons aussi cette vision d'une union entre l'âme inférieure et l'âme supérieure. Mais dans le cas d'Aboulafia et aussi dans le cas de le chassidisme, nous avons des visions grecques, psychologiques, mais avec des techniques linguistiques d'origine juive. Et je crois que nous pouvons parler de ce type de différentes combinaisons entre différents cordes linguistiques, aristotéliciennes, linguistiques et néoplatoniciennes ici. Et je crois que ce type de synthèse est une part très importante de l'histoire de base de la pensée juive.